Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Ce soir, nous revenons au livre de Matthieu, et j'aimerais que vous preniez votre Bible et que vous l'ouvriez avec moi au deuxième chapitre de Matthieu, Matthieu chapitre 2, et nous examinons le récit biblique de la visite des mages à la naissance de Jésus à Bethléem. Et nous avons passé beaucoup de temps la semaine dernière à vous présenter les mages, qui ils étaient, et certains autres détails les concernant. Je n'ai pas du tout l'intention de prendre le temps de revenir là-dessus. Permettez-moi juste de vous rappeler que l'essentiel de ce que nous avons vu, c'est que ces hommes étaient des faiseurs de monarques perses, qui venaient parce qu'ils étaient informés de la naissance du roi, qui avait été annoncé, et dont ils avaient sans doute entendu parler grâce à quelqu'un comme Daniel ou d'autres Israélites, qui avaient vécu dans leur pays depuis l'époque de la captivité babylonienne. Et ces Perses, faiseurs de rois, étaient très préoccupés par la recherche d'un roi, parce qu'ils n'en avaient pas. Le roi de cette époque avait été destitué, et ils étaient en quête d'un grand monarque pour occuper le trône de l'Est et leur permettre de constituer une menace pour le puissant empire romain en Occident. Leur sentiment était donc à la fois politique et spirituel, et nous avons vu qu'ils étaient entrés en ville et étaient immédiatement confrontés au personnage le plus fascinant qu'est Hérode. Nous verrons davantage de choses à son sujet ce soir. Mais j'ai partagé avec vous que la raison pour laquelle Matthieu inclut cette partie particulière de la naissance de Jésus, c'est parce que Matthieu présente Christ comme roi. Et que pouvait-il y avoir de plus indiqué dans la présentation du Christ en tant que roi que de faire venir des monarques pour le couronner roi? Non seulement ils étaient des faiseurs de monarques, mais encore c'étaient des faiseurs de monarques païens. Nous avons vu à quel point il était presque paradoxal que les Juifs qui auraient dû être en quête du Messie ne se soient pas dérangés à la naissance du Christ, tandis que les païens qui constituaient un peuple connu à l'époque, exclus des alliances avec Dieu, ont cherché à le reconnaître comme roi. Il était donc roi, comme nous l'avons vu dans la présentation que Matthieu en a fait par la vertu de la lignée qui part de David. Nous avons vu cela, et ici nous voyons qu'il est roi, de par le fait que ceux qui sont dans le monde entier étaient considérés comme des faiseurs de rois officiels, les identifiés comme tels. Vous pourriez dire qu'au chapitre 1, Matthieu dit « Jésus mérite d'être honoré en tant que roi », et au chapitre 2, il le reçoit. Et il était, en effet, dans ce passage précis, en train d'être reconnu comme roi des rois et seigneur des seigneurs, dans un certain sens, par ses faiseurs de monarques païens. Ceci constitue un renforcement de la souveraineté du Christ, le droit qu'il a de régner. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, je ne peux pas m'empêcher de m'arrêter pour penser au fait que le véritable roi n'ait pas été connu à Jérusalem, sa propre ville, dans sa propre résidence royale, le lieu où plus que partout ailleurs, il aurait dû être salué comme roi. Il ne l'a pas été. Ils ne l'ont point cherché. Ils ne se sont pas préoccupés de lui. Ils ne se sont même pas dérangés à se rendre à Bethléem pour le voir. Au lieu de cela, ce sont plutôt des étrangers, issus d'un pays lointain, qui l'ont cherché pour l'adorer et lui rendre un culte. En dehors des gens ordinaires et de Hérode, qui étaient pleins d'amertume et de haine, et d'envie et de jalousie, les dirigeants, les chefs et les théologiens et les prêtres d'Israël étaient complètement indifférents. Ainsi, dès le début de l'évangile de Matthieu, nous avons une idée de la manière dont les choses vont se dérouler. Il y aura ceux qui se montreront indifférents. Il y aura des gens dans l'opposition. Et il y aura ceux qui seront dans l'adoration. Nous en apprendrons plus au sujet de ces trois groupes, tandis que nous progressons. Ainsi, les mages représentent les prémices des nations païennes, et nous démontrent réellement que Dieu les a toujours eus à cœur. En examinant les versets 1 à 12, nous allons à présent le voir de manière beaucoup plus spécifique, en considérant le texte. La dernière fois, nous nous sommes contentés d'aborder l'introduction, mais en regardant le passage, j'aimerais vous amener à voir cinq actes dans cet incroyable drame qui se joue au chapitre 2. cinq actes bien distincts. Nous leur attribuerons un simple mot en guise de titre pour pouvoir nous en souvenir. Arrivée, c'est l'acte 1. Le deuxième, agitation. Numéro 3, comédie. Numéro 4, adoration. Et numéro 5, évitement, esquive. Ce n'est certes pas un plan très réfléchi, mais ce sont des crochets qui vous permettront d'accrocher vos idées. Tout d'abord, nous parvenons à arriver. Regardons versets 1 et 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et vous vous souvenez que je vous ai dit qu'il s'agissait en réalité d'un terme intraduisible qui fait référence à une lignée de sacrificateurs héréditaires, une tribu de peuple originellement issue des Mèdes, mais qui, au fil des années, est montée à un niveau de notoriété important dans le royaume de la Perse, le royaume Mède, mais également le royaume de Babylone. Il est donc devenu synonyme à plusieurs égards du fait d'être un sage. Être mage revenait à occuper une place de sage dans la société. Ainsi donc, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » Nous avons donc, évidemment, l'arrivée ici. Très peu de temps après la naissance de Jésus, les mages arrivent à Jérusalem. Il y a deux choses que nous notons dès le départ au verset 1. Tout d'abord, la formule « À Bethléem, en Judée ». Maintenant, Bethléem est une petite ville tranquille, située à 8 ou 10 kilomètres au sud de Jérusalem. Elle était jadis appelée Ephrata, et c'est ainsi qu'elle est désignée par Michée, le prophète de l'Ancien Testament. Cependant, le nom Bethléem est intéressant. Il signifie « maison du pain ». Beth signifie « maison » et « léem » veut dire « pain ».« Maison du pain », un nom tout à fait indiqué pour le lieu de naissance du véritable pain de vie. Maintenant, ce petit village était établi dans une campagne fertile et était très productif. En fait, si je parviens à vous en donner une brève description, cela vous permettra de mieux la visualiser. J'y suis allé plusieurs fois et je ferai de mon mieux. Jérusalem, comme vous le savez, est établie sur un plateau à un peu plus de 600 mètres au-dessus de la vallée. Elle se trouve juste au-dessus d'une haute colline et légèrement vers le sud. Une chose intéressante sur l'emplacement de Bethléem. Sur un bout, il y a une crête plus élevée, et sur l'autre extrémité, il y a une autre crête plus élevée, et cela donne l'impression d'une selle, au milieu de laquelle Bethléem se positionne un peu comme un berceau. La zone est pour l'essentiel une sorte de calcaire gris. En fait, c'est tout ce que vous verrez là-bas, parce qu'il y a aujourd'hui, à Jérusalem, un règlement en matière d'occupation du territoire, et dans cette zone, vous ne pouvez construire aucun bâtiment, à moins de le faire avec des pierres issues de Jérusalem, ce qui fait que les bâtiments jaillissent tout simplement du sol et ont exactement l'apparence de ce sol. Il s'agit d'un calcaire de couleur grisâtre, et il ressemble à une petite ville qui serait en quelque sorte établie dans un amphithéâtre. C'est très frappant. Toutefois, la petite ville de Bethléem a eu une longue histoire très intéressante. Si vous remontez jusqu'au livre de la Genèse, vous découvrirez qu'à Bethléem, Jacob a enterré Rachel et a établi une colonne pour identifier sa tombe. Et même aujourd'hui, lorsque vous empruntez une Mercedes-Benz en guise de taxi pour descendre à Bethléem, quelqu'un pointera du doigt et dira « C'est la tombe de Rachel, à droite de la route ». Nous trouvons aussi qu'après avoir épousé Boaz dans le livre de Ruth, Ruth a vécu dans la ville de Bethléem, et à partir de Bethléem, Ruth pouvait voir clairement par-dessus la vallée du Jourdain. Et c'est vrai, vous pouvez vous tenir sur cette petite colline pour regarder à travers la vallée du Jourdain, à travers la mer Morte, et voir les collines de Moab, de l'autre côté. Ruth était une Moabite. En vivant à Bethléem, elle était capable de se mettre debout et de voir sa patrie. Par-dessus tout, la ville de Bethléem était la maison, et la ville du grand roi d'Israël, qu'on appelait David. C'est ce qui est caractéristique de Bethléem. Elle a toujours été et sera toujours la cité de David. Dans 1 Samuel 16, 1 Samuel 17 et 1 Samuel 20, nous trouvons des éléments indiquant qu'il s'agissait de la ville de David. En fait, dans 2 Samuel 23, lorsque David était un fugitif recherché, il a crié en disant « Qui me fera boire de l'eau du puits qui se trouve à la porte de Bethléem ?» C'était sa ville natale. Plus tard, Roboam, après la scission du royaume au temps de Salomon, a fortifié la ville. Beaucoup de choses se sont passées au cours de l'histoire. Elle est cependant considérée comme étant uniquement la cité de David. Et c'était vraiment là. Ceci est important. C'était vraiment là, à ce petit endroit, ce petit village. Ce n'est pas vraiment une ville. C'est dans ce petit village que le peuple de Dieu s'est longtemps attendu à ce que le Messie naisse. Et il y avait une raison à cela, et cette raison est une prophétie de l'Ancien Testament. On s'attendait à ce que le descendant le plus important de David sorte de la cité de David. On s'attendait à ce que le Messie y naquît. Et pourtant, lorsqu'il y est né, on n'a pas pris la peine de le remarquer. Maintenant, juste un peu plus au sujet de Bethléem, pour vous aider à en avoir une image visuelle. Les maisons de Bethléem sont construites sur des pentes. En fait, il est très difficile de trouver un endroit plat, à moins de remonter sur la place qui se trouve à droite, près de l'église de la Nativité. Il semble que tout soit en pente et que les maisons sont construites sur ces pentes. Très souvent, quand une maison est construite sur une pente, en dessous, parce que le calcaire n'était pas si solide, et parce qu'il y avait des entrailles naturelles dans la montagne, les gens creusaient comme une grotte qui servait des tables. Et il est très probable que ça ait été dans une telle grotte creusée que notre Seigneur Jésus est né. Même aujourd'hui, l'Église catholique pense avoir trouvé la bonne caverne, une antre. Bien sûr, ils trouvent toujours un endroit où ils peuvent plaquer une église, partout sauf au milieu de la mer de Galilée. Ils n'ont pas encore été capables de construire une église là où Jésus a marché sur l'eau. Mais partout ailleurs où Jésus a posé son pied, ils ont construit une église. Sur cette caverne ou antre particulière qu'ils croient avoir trouvée sur le flanc de la colline, ils ont construit une église, juste au-dessus. Alors vous entrez à l'église, descendez l'escalier jusqu'en bas, et vous allez dans une petite grotte. Vous devez baisser la tête et plier vos épaules pour ramper dans cette petite caverne. Et c'est là qu'ils disent que Jésus est né. Au fait, ce n'est pas du tout une nouveauté. C'est quelque chose qui remonte à l'époque de l'empereur Hadrien. Il s'est d'abord aperçu que les chrétiens avaient l'impression que cette grotte constituait un lieu sacré. Il a donc pensé à la profaner de la bonne manière. C'est ainsi qu'il a construit un sanctuaire à Adonis, un faux dieu, juste dessus. Et Constantin, qui est arrivé au IVe siècle, a détruit le temple d'Adonis pour construire une église à la place. Les gens ont continué à penser qu'il s'agissait bien du site. Il s'agit donc d'un petit village construit sur un tas de pentes, où les maisons avaient habituellement en dessous, quand elles en avaient une petite étable faite à partir d'un antre ou caverne creusée dans la colline. C'est donc Bethléem de Judée, insignifiante. Peut-être vaut-il mieux qu'il en soit ainsi pour que lorsqu'on pense à Bethléem, on ne pense qu'à une chose, à savoir la naissance de Jésus-Christ. Et peut-être bien que c'est ainsi que Dieu l'a voulu, ce qui fait qu'il a choisi un endroit très obscur et suffisamment proche de Jérusalem, cependant, au point qu'il aurait dû attirer l'attention de toute la population quand le roi est né, si elle avait été aussi sensible à Dieu qu'il l'aurait souhaité. Entre le chapitre 2 et le verset 1, lorsque les mages arrivent, et la naissance du Christ, il y a un intervalle de temps. J'y ai fait allusion la dernière fois, et je ne vais pas entrer dans les détails à ce sujet. Mais il me semble qu'il s'est écoulé quelques mois au moins. Il y a une bonne période de quelques mois. Jésus étant né quelque temps, vers la fin de l'année, tandis qu'Hérode décédait quelque part au début de l'année qui a suivi. Nous savons qu'il est mort, ou tout du moins nous croyons qu'il est mort aux environs de mars, ou début avril, pendant une éclipse lunaire, en l'an 4, avant Jésus-Christ. Cela ne peut pas avoir été plus de 4 ou 5, ou 6 mois tout au plus, du moins d'après moi, après la naissance du Christ. Et vous remarquerez également ceci. Il nous est dit au verset 11, qu'ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant. Jésus n'est plus dans la mangeoire, il n'est plus dans l'étable, il se trouve dans une maison. Et je vous ai dit la dernière fois qu'il est probable que les parents de Jésus avaient déjà été au temple pour la purification. Lorsqu'une femme juive accouchait, il y avait une certaine période de temps pendant laquelle elle devait aller se purifier et offrir un sacrifice. Je vous ai dit la dernière fois qu'ils offraient des tourterelles, ce qui était l'offrande d'une personne en situation de pauvreté abjecte. Si cela s'était passé un long moment après la naissance du Christ, ils auraient sans doute pris les dons que les mages leur avaient apportés pour acheter un sacrifice plus important. Il me semble donc qu'ils n'avaient pas encore reçu les dons des mages, qu'ils auraient pu utiliser pour ce sacrifice. Cela veut dire que la purification a eu lieu avant cela, ce qui amène cela au moins à 40 jours avant l'arrivée des mages. L'enfant avait donc quelque peu grandi. Il avait peut-être quelques mois. Il y a une autre note intéressante ici. et je me contente de vous donner des informations pour fixer en quelque sorte la scène. Vous remarquerez qu'il est dit « au temps du roi Hérode ». Nous pourrions passer des heures à parler de cette personne et de tout son arrière-plan et d'où il est venu, mais ce ne serait pas tout à fait pertinent pour notre sujet. Permettez-moi juste de vous donner suffisamment de données historiques pour vous aider à saisir l'image. Cet homme n'était pas strictement juif. Il était un Édomite. Il était Iduméen, qui est un autre terme pour désigner cela. Édomite et Iduméen sont synonymes, issus d'une région de l'Est et un peu plus au sud de Jérusalem. Il s'était mis à la disposition des Romains. Maintenant, souvenez-vous de ceci. Les Romains sont venus et ont en quelque sorte conquis ce territoire, et les gens, qui étaient intelligents, ont un peu joué avec les Romains. Les gens qui voulaient gagner quelque chose ont en quelque sorte joué avec les Romains, et cet homme était l'une de ces personnes. Pendant les guerres civiles en Palestine, et pendant le temps où Rome essayait de s'y établir avant la naissance du Christ, Hérode s'est livré à des jeux avec Rome, et est en quelque sorte entré dans leur bonne grâce, et lui ont fait confiance. Il a gagné sa faveur. Et une fois que Rome a finalement conquis le territoire de la Judée, on a établi un procureur. Un procureur était comme un gouverneur, une sorte de dirigeant officiel de ce petit pays. Et son nom était Antipater. C'était un Édomite. Il était Édomite et Hérode était son fils. Lorsqu'on recherchait un dirigeant, on a trouvé cette personne, Antipater, dont Hérode était le fils. Mais Hérode était si bien embobiné avec les Romains que ceux-ci ont désigné Hérode comme tétrarque de la Galilée. Autrement dit, ils avaient besoin de quelqu'un pour gérer Jérusalem et la Judée, et de quelqu'un d'autre pour en contrôler la zone rurale. C'était une position moins importante, mais il s'agissait tout de même d'une position d'honneur chez les Romains. Ils ont donc mis Antipater à Jérusalem et en Judée, tandis qu'ils plaçaient son fils Hérode en Galilée. Ainsi, en 47 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire avant la naissance de Christ, Hérode a été fait tétrarque de Galilée. Cependant, 7 ans plus tard, en 40 avant Jésus-Christ, cette région orientale, Parthe, Persane, Mède, dont nous avons parlé, d'où les mages sont issus, a commencé une guerre civile, et ils sont venus attaquer ce territoire de la Palestine, de la Syrie, et ainsi de suite. Hérode a pris un bateau rapide pour Rome. Il a décollé. Il a vu l'écriture sur le mur, et il s'est rendu à Rome pour les informer de ce qui se passait. L'Est avait commencé à déranger cette petite zone tampon. Alors Hérode a décollé et fui à Rome. Il s'agit du fils d'Antipater. Il arrive donc à Rome et il commence à s'appuyer sur le Sénat romain. Il joue vraiment sur le Sénat romain. Il parvient à convaincre le Sénat romain qu'il est de son côté, bien qu'il soit également originaire de cette partie du monde et qu'il sait gérer les situations qui prévalent là-bas, et etc., etc., etc. Il demande un pouvoir absolu. C'est ainsi qu'en 40 avant Jésus-Christ, ou vers cette période, le Sénat romain établit Hérode roi des Juifs. Maintenant, ne l'oubliez pas, ils ont établi Hérode roi des Juifs. Et on lui a dit, « Prends une armée », et on lui a fourni une armée. On lui a donné des troupes expérimentées en disant, « Vas-y, taille-toi un royaume là-bas, et occupe-t'en. » Savez-vous qu'il lui a fallu 3 ans pour y arriver? Il lui a fallu 3 ans pour finalement parvenir à obtenir le pouvoir qu'il convoitait. Finalement, en 37 avant Jésus-Christ, il a gagné et est devenu le roi des Juifs, un titre qu'il a conservé jusqu'à sa mort. Il s'est toujours battu pour conserver le titre de roi des Juifs. Maintenant, voyez-vous la question que les mages posent au verset 2 en disant « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Eh bien, cela suffisait à faire paniquer Hérode. Je veux dire qu'il cherchait une stabilité politique. Il avait effectué le voyage jusqu'à Rome et joué son numéro devant le Sénat. Il avait obtenu le droit de devenir roi des Juifs, ramené une armée et combattu pendant 3 ans pour gagner le droit d'en faire une réalité. Et puis il s'était accroché à cela jusqu'ici. Et tout à coup arrive toute une bande de faiseurs de monarques perses qui entrent dans la ville en courant et se mettent à demander partout. « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Et Hérode a peur. Une petite partie du choc de toute cette scène est encore indiquée au verset 1. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages. Il n'est pas seulement dit ici « voici les mages », mais plutôt « incroyable, les mages ». Ou alors, si vous vous mettez à la place d'Hérode, « oh là là, les mages sont là !» Ou encore autre chose. Inattendu, surprise, déconcertant. choquant, incroyable. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Pourtant, cela n'aurait franchement pas dû être si choquant. C'est vrai, si ces Juifs avaient attentivement analysé l'Ancien Testament, ils auraient sans doute su que le moment était venu. Les historiens nous réitèrent qu'il y avait à cette époque dans le monde. Observez ceci maintenant. Je trouve cela passionnant. À cette époque, il y avait dans le monde une étrange attente d'un roi qui devait arriver. Les gens de l'Est l'avaient, et c'est en partie pour cette raison que les mages sont venus. Les gens, à plusieurs endroits, espéraient l'arrivée d'un roi. C'était l'humeur du jour. Même les historiens romains reconnaissent cet état de choses. Suétone, par exemple, a écrit « Il s'était répandu dans tout l'Orient une croyance ancienne et établie, selon laquelle le destin voulait qu'à cette époque des hommes viendraient de la Judée pour gouverner le monde. » Il s'agit de Suétone, et Suétone aurait écrit après l'époque de Vespasien, et Vespasien conquit Israël en 70 après Jésus-Christ. Peut-être Suétone a-t-il donc écrit un peu après cela, mais il a regardé en arrière et a dit qu'il y avait eu un moment où on s'attendait à ce que des hommes viennent de Judée pour diriger le monde. Il regardait cet endroit-là. Tacite, le célèbre historien romain, parle de la même croyance. Il y avait une ferme conviction, dit Tacite dans ses histoires, qu'à ce moment-là, l'Est deviendrait puissant et que des dirigeants venant de Judée acquerraient un empire universel. D'après Joseph, dans son volume « Les guerres des Juifs », les Juifs croyaient que l'un des ressortissants de leur pays deviendrait gouverneur de la terre habitable. Un peu plus tard, nous trouvons Tiridate, roi d'Arménie, en train de visiter Néron à Rome, en compagnie de ses sages. Selon Suétone, nous trouvons les mages à Athènes, en train d'offrir des sacrifices à la mémoire de Platon. Au même moment que Jésus naissait, nous trouvons Auguste, l'empereur romain, en train d'être salué comme le sauveur du monde. Et nous voyons le poète romain Virgile, en train d'écrire sur l'âge d'or qui venait juste de poindre. Vous voyez, les Romains recherchaient un âge d'or. L'Orient venait à l'ouest avec ses sages. Il y avait un étonnant sentiment que quelque part, d'un endroit donné, il viendrait un grand sauveur du monde, un grand dirigeant, un grand monarque. J'ignore d'où est venue toute cette anticipation. C'est juste curieux que tout cela soit arrivé au même moment. Le moment était venu, et voici arrivèrent les sages ou les mages de l'Est de Jérusalem. Peut-être avaient-ils identifié ce que Paul écrivait aux Galates. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu envoyait son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Il y avait la sensation que les temps étaient accomplis. Et certaines personnes l'ont bien ressenti. Ces mages, sur la base de l'information qu'ils ont reçue de Daniel et d'autres informations qu'ils ont reçues des Juifs, qui vivaient dans leur pays depuis l'époque de la captivité, et sur la base de leur propre sens de la foi dans le Dieu véritable, et sur la base de l'attente qu'ils avaient que Dieu accomplirait sa parole, et sur la base de ce qu'ils ont vu dans le ciel, et qui est appelé ici étoile, sont arrivés à Jérusalem. Les gens disent toujours, mais combien étaient-ils? Nous n'en savons rien, comme je vous l'ai dit. Ils n'étaient pas. Mais alors, ils n'étaient pas du tout Melchior, Balthazar et Gaspard. Ils ne venaient pas l'un de l'Inde, l'autre de l'Égypte et l'autre encore de la Grèce. Ils n'ont pas été successivement baptisés par Thomas. Leurs ossements n'ont pas été découverts par Sainte Héléna et déposés à l'église de Sainte Sophia, à Constantinople, pour être transférés plus tard à Milan, si bien que vous pourriez vous y rendre et voir leurs crânes. Ce n'est pas vrai. Tout cela n'est que le fruit de l'imagination. Nous ne savons pas du tout combien ils étaient. Nous ignorons quels étaient leurs noms, et c'est donc de la spéculation pure. Cependant, ils avaient une raison d'être là. Regardez au verset 2. Il est dit, et apparemment, d'après la construction grecque, ils ont dit partout. Ils ont continué de dire, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » Ils ont continué de demander « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Vous savez, cela a quelque peu dû les choquer de ce que chaque fois qu'ils posaient cette question, ils avaient une espèce de « hein » en guise de réponse de la part de tout le monde. Ils avaient probablement supposé que les gens seraient au courant. Je veux dire qu'après tout, c'était eux les Juifs, et ils devaient certainement savoir quand et où leur roi était né. Mais deux choses m'ont frappé tandis que je lisais ce verset. Et j'aimerais répondre à ces questions, parce que ce sont les deux qui m'ont frappé. Question numéro 1. Quelle était la nature de l'étoile? Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. J'ai donc fait de la lecture cette semaine et la semaine dernière pour tenter de découvrir ce qu'était l'étoile. Vous n'allez pas croire les suggestions. Tout d'abord, certaines personnes disent qu'il s'agissait d'une étoile authentique, réelle, véritable, dorée et véritable. D'autres disent que c'était Jupiter, parce que Jupiter est appelé le roi des planètes. Certains disent, et c'est la théorie de Kepler, que c'était la conjonction de Jupiter et de Saturne dans le signe du Poisson. Certains disent que c'était juste une comète erratique. Certains disent qu'il s'agissait d'un météore à faible distance. Et certains disent que c'était l'étoile du destin dans le cœur de l'humanité. Ça fait beaucoup de balivernes à entendre. Voulez-vous savoir ce que c'était? Je vais vous dire ce que je pense. Regardez Luc 2, versets 8 et 9. Et peut-être bien que cela aidera à répondre à la question que vous vous posez, probablement depuis votre petite enfance. Si vous êtes encore un petit enfant, c'est que vous l'avez encore cette question. Luc 2, versets 8 et 9. Voici maintenant un bon indice. Nous ne sommes pas ici chez les mages, mais chez les bergers. Ils étaient les premiers à venir, et ils étaient d'Israël. Ils constituaient une sorte d'image du reste. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs, les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Qu'est-ce qui brillait dans le ciel lorsque les bergers l'ont vu? Qu'est-ce que c'était? C'était la gloire du Seigneur. Si vous retournez dans l'Ancien Testament et étudiez le concept de la gloire de Dieu, vous verrez qu'elle se manifeste comme une lumière, d'accord? À plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, la gloire de Dieu se manifeste comme une lumière. Lorsque Dieu fait rayonner sa présence, il la transforme en une lumière ineffable. Lorsque la gloire de Dieu apparaît dans la journée, elle était semblable à un nuage de lumière. Lorsqu'elle apparaissait la nuit, c'était une colonne de feu. Lorsque la gloire de Dieu descendait sur le tabernacle, c'était sous forme de lumière. Lorsque Moïse est allé sur la montagne et qu'il a dit « Montre-moi ta gloire », Dieu l'a caché dans un rocher et lui a montré sa gloire sous la forme d'une lumière. Et c'était si lumineux que c'est passé sur son visage. Et lorsqu'il est descendu de la montagne et qu'il s'est adressé au peuple, son visage était lumineux. La gloire de Dieu est un feu ardent. Et lorsque Jésus a révélé qui il était, il a révélé sa gloire sur le mont de la Transfiguration. Ses disciples ont contemplé quoi? Sa gloire comme une lumière transparente. Et quand Jésus viendra pour la seconde fois du ciel, il arrivera dans une lumière flamboyante. Apocalypse dit que Dieu éteindra toutes les lumières du ciel, toutes les étoiles tomberont, tous les soleils et toutes les lunes, tout deviendra noir et s'enroulera comme un parchemin. Et quand il fera complètement sombre, alors Christ se révélera comme une lumière éclatante, et les gens crieront aux rochers et aux montagnes de tomber sur eux pour les cacher de sa gloire. Tout ceci tout simplement pour vous rappeler que la gloire de Dieu se manifeste dans les Écritures comme une lumière, comme une lumière. Il a dit à Moïse qu'il ne pouvait pas regarder son visage et vivre. Il aurait été consumé. Ce serait un peu comme se tenir à 10 mètres du soleil, bien qu'il s'agira d'un million de millions de soleils. Et je crois que c'est la gloire de Dieu qui a brillé cette nuit-là, tandis que la gloire de Dieu descendait sur terre. C'est la gloire de Dieu qui était en train de descendre sur terre, arrivant sous la forme d'un être humain. Et je crois que cette gloire de Dieu est la chose que les mages ont vue. Permettez-moi de vous donner davantage d'arguments sur cette question, parce que je pense que c'est intéressant d'aller jusqu'au bout de cette pensée. Le terme principal de l'Ancien Testament, le mot hébreu pour dire étoile, est kokab. Ce n'est pas que ce soit important, mais c'est juste un point de contact avec l'hébreu. Toutefois, ce terme a un sens fondamental, et sa signification de base est « briller » ou « resplendir ». Briller ou resplendir. Il arrive cependant que le mot « kokab » soit employé pour désigner une véritable étoile. Quelquefois, il est utilisé pour parler d'une étoile ordinaire. D'autres fois, il est employé pour parler d'un ange. Souvent, il est utilisé pour parler des humains. Il ne désigne donc pas toujours une vraie étoile. Il peut signifier tout ce qui brille d'une manière incroyable. En fait, Nombre 24, verset 17, est une écriture très intéressante. Il est dit, et ceci est une prophétie messianique. Je le vois, mais non maintenant, je le contemple, mais non de près. Écoutez à présent. Un kokab sort de Jacob. Un spectre s'élève d'Israël. Il s'agit de Nombre 24, verset 17. C'est une prophétie messianique. il y aura un éclat. Il viendra quelqu'un de resplendissant. Il viendra une étoile, un astre. Et, braves gens, je crois que la prophétie qui se trouve là n'est rien d'autre que la gloire de Dieu incarnée, qui constitue l'étoile, l'éclat. Regardez un instant Matthieu 24. Allons verset 30. Aussitôt après ces jours de détresse, au verset 29, il est dit « Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. C'est ce que je vous ai dit. Les étoiles tomberont du ciel, et tout devient complètement noir. » Et ensuite au verset 30, observez ceci. « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. » Notez cette phrase, « le signe du Fils de l'homme ». Autrement dit, chaque fois que le Fils de l'homme est sur le point de se montrer, il y a un signe pour diriger les regards vers lui. Savez-vous à quoi sert un signe? Le signe sert à vous diriger vers quelque chose que vous voulez voir. Par exemple, vous conduisez sur une route, et un panneau indique « boulevard Napoléon, 900 mètres ». Le signe n'est pas « boulevard Napoléon », mais il est là pour conduire au boulevard Napoléon. Il a une fonction. Son objectif est de vous guider vers quelque chose. Et le Fils de l'homme a un signe. Le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Oh, c'est intéressant. Ce signe se trouve dans le ciel. Et qu'est-ce qu'ils verront? Le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Voici son kokab, son éclat. Et bien que kokab, le terme hébreu, ne soit pas employé dans le Nouveau Testament, c'est la même idée. Je crois que ce signe du Fils de l'homme n'est rien de plus et rien de moins que la gloire, la Shekinah de Dieu lui-même. Dieu s'est révélé lui-même dans une lumière ineffable et glorieuse. En fait, il nous est dit, je pense que c'est dans Apocalypse 1, verset 16, que le soleil brille, le Fils de Dieu resplendit comme s'il était le soleil dans sa puissance. D'une certaine manière, observez ceci à présent. D'une certaine manière, cette incroyable et ardente gloire de Dieu est connectée à Jésus-Christ. C'est son signe dans les cieux. Il est un esprit. Il est un être spirituel. Il est aussi, dans un certain sens, un être physique dans le corps glorifié qu'il possède depuis sa résurrection. Il y a cependant un signe qui va avec lui. Et il s'agit d'une gloire flamboyante. Et un jour, il l'a présentée à ses disciples sur la montagne. Un jour, quand il reviendra, le signe de sa venue, le signe du Fils de l'homme dans le ciel sera là. Une gloire ardente dans les cieux. Eh bien, vous savez ce que je pense. Je pense qu'il avait exactement le même signe la première fois qu'il est venu. Je pense qu'il s'agit tout simplement du signe du Fils de Dieu dans le ciel. Et le signe du Fils de l'homme dans le ciel n'est pas une étoile. Il ne s'agit pas d'un corps astral. Ce n'est pas une association de planètes. Ce ne sont pas des pensées de destinée humaine traversant d'une manière furtive l'esprit ou la pensée mystique d'un individu. Le signe du Fils de l'homme n'est rien de plus et rien de moins que la gloire Shekinah de Dieu révélée dans une lumière flamboyante et éblouissante dans les cieux. J'ajouterai la pensée suivante. Le verset 2 déclare « Car nous avons vu, observez ceci, son étoile, son éclat, le terme « aster » à tout hasard, braves gens. Le mot est traduit par « étoile » ici, mais il s'emploie pour des autres choses que les étoiles. Il a donc son propre sens, et une fois de plus, il veut dire un éclat ou quelque chose de resplendissant. Nous avons vu son éclat en Orient. Nous avons vu son kokab, son aster, son éclat, sa gloire. Le simple fait qu'il s'agisse de son étoile signifie que c'est quelque chose de très spécial. Il est apparu. Voilà un mot intéressant. Nous avons vu son étoile en Orient. Son étoile au verset 7. Hérode dit « Je veux savoir quand l'étoile est apparue. » Le mot « phaino » en grec veut dire « ce qui s'allume ». Quelle heure était-il donc lorsque ce truc s'est allumé? Le même terme, une pensée intéressante, le même terme est employé avec éclair. L'éclair est une forme d'aster. Il est quelquefois traduit comme une étoile dans le ciel. Souvent il est traduit comme un éclair. D'autres fois comme l'éclat d'une chose. Ici, il s'agit d'un éclat. Nous ne pouvons pas pousser plus loin. Nous ne pouvons pas l'amener à signifier une véritable étoile. Et il y a le sens selon lequel Hérode dit « Quand est-ce que cet éclat particulier s'est allumé ? » Et même cela constitue un indice qu'il s'agit bien de quelque chose qui n'existait pas et qui a été appelé à l'existence tout simplement parce que Jésus est arrivé. Je crois donc qu'il s'agit de son aster, le signe du Fils de l'homme dans les cieux. C'était là lors de sa première venue et, bien aimé, ce sera encore là au moment de sa seconde venue. Il s'agit de son signe. C'est son étoile. il ne s'agit nullement d'un corps astral. La pseudoscience qu'est l'astrologie n'aurait jamais pu prédire la venue du Seigneur. Ils n'étaient pas en train de regarder dans leurs petites affaires pitoyables et de voir. Eh bien, voyez là, voilà le vieux Saturne et l'autre en train de faire leur machin. On dirait bien qu'il est né. Non, non, ils ont vu quelque chose qu'ils n'avaient encore jamais vu auparavant. Et ils savaient qu'il devait s'agir d'une chose unique. Et ils l'ont donc relié à ce que l'Ancien Testament avait dit et ce que Daniel leur avait indiqué. Aucune recherche astronomique ne leur avait indiqué le chemin. Dieu s'est révélé lui-même. Cela n'était pas absolument différent de la colonne de feu dans l'Ancien Testament. Vous vous souvenez de la colonne de feu lorsque la nuée s'arrêtait au-dessus du Saint des Saints dans l'Ancien Testament? Eh bien, il nous est dit ici que, quelle qu'ait été cette étoile, elle est allée et s'est arrêtée au-dessus de la maison dans laquelle il est né. À vous maintenant de me dire comment est-ce qu'une étoile au sens littéral du terme ou toute autre chose aurait été en mesure de faire ça. Vous dites, eh bien, il s'agissait d'une gloire si flamboyante, splendide, du signe du Christ dans les cieux. Comment se fait-il que personne d'autre que les mages, depuis la Perse, ne l'ait vu? Voilà une bonne question. C'est la seconde question que je pose. Comment se fait-il que Dieu se montre si sélectif? Vous savez, cela ne constitue vraiment rien de surprenant avec Dieu. Il peut aveugler le monde entier au sujet d'une chose, si ça le chante. Dans Exode, chapitre 14, j'ai trouvé un bon parallèle. Chapitre 14, verset 19, déclare « L'ange de Dieu, qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux. Les Hébreux s'apprêtent à traverser la mer Rouge, et l'ange les a conduits jusqu'à la mer Rouge. Une fois parvenus à la mer Rouge, l'ange contourne pour se mettre en arrière. Il se place derrière eux. Vous dites pour pousser? Non, je vous montrerai pourquoi faire. La colonne de nuée, c'est la gloire de Dieu. La colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. À présent, derrière les Israélites, se trouve la colonne de nuée, la gloire de Dieu. Et il y a également l'ange de l'Éternel. Et qui est l'ange de l'Éternel? Jésus-Christ. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Savez-vous ce qui s'est passé? Israël a vu comme une lumière, tandis que Pharaon et son armée voyaient cela comme les ténèbres. Et il s'agissait pourtant de la même chose. Il y a ceci au sujet de Dieu, qu'il peut révéler juste à ceux à qui il veut bien révéler quelque chose, et c'est tout ce que je peux dire à ce sujet. Comment sont-ils parvenus à relier cela à la naissance de Jésus-Christ? Je l'ignore. Je ne le sais pas vraiment, à moins que Dieu n'ait rendu cela si évident pour eux qu'ils savaient, qu'ils savaient. À présent, voulez-vous savoir quelque chose de passionnant? Cela pourrait quelque peu vous secouer. Cela pourrait bouleverser vos histoires de Noël l'année prochaine. Savez-vous qu'il n'est indiqué nulle part dans la Bible qu'ils ont suivi l'étoile depuis la Perse jusqu'à Bethléem? Non. Il n'est pas dit qu'elle les a conduits jusqu'à Jérusalem. Cela n'est dit nulle part. Absolument pas. Nous avons vu son étoile. Où? En Orient. Ils ont vu l'étoile à l'Est, et elle n'a pas eu besoin de leur dire où aller. Ils savaient où le Messie juif était supposé être. Ils savaient que la cité royale était Jérusalem. Ils savaient que c'était là-bas que tous les rois des Juifs régnaient. Ils savaient exactement où se rendre. Ils n'avaient pas besoin d'une étoile pour les conduire. Et lorsqu'ils ont vu sa gloire et que Dieu a rendu cela si évident et si flagrant, comme il le fait toujours lorsqu'il révèle ce qu'il veut révéler à quiconque il veut le révéler, qu'ils n'ont même pas posé la question, ils sont montés sur leurs chevaux et s'en sont allés. Ils se sont rendus juste au bon endroit. Et Matthieu ne nous fournit pas tous les éléments détaillés de la manière dont ils ont sellé leurs chevaux persans, et combien de kilomètres ils ont parcouru, comment c'était, et ce qu'ils ont mangé, et tout cela, parce que ce n'est pas l'histoire de ces gens. Il s'agit de l'histoire de Jésus-Christ, et ils n'ont de place que tant que cela est en lien avec lui. Il n'y a donc pas de détails. Je trouve cependant incroyable la manière dont Dieu orchestre tout quand il veut accomplir ces choses. Il a donné à ces mages, ces païens qui craignaient Dieu et ces faiseurs de monarques, qui venaient de très loin en Perse, son signe, et ils savaient que c'était son signe, et ils savaient où se rendre, à Jérusalem. L'emphase de Matthieu est si belle, il dit au verset 2 qu'ils ont déclaré, « Car nous avons vu son astère en Orient, et nous sommes venus. » Pour quelle raison? Pour l'adorer. Ils savaient qu'il devait être adoré. Pour l'adorer. Ils savaient qu'aucun autre n'était aussi digne que celui-ci, et ils avaient raison. Voilà. Des païens qui n'avaient rien pour les guider, si ce n'est une connaissance superficielle des prophéties de l'Ancien Testament. Rien pour les conduire, si ce n'est leur propre science mêlée à de drôles de superstitions. C'était pourtant eux, les vrais chercheurs de Dieu. Et lorsque le signe est apparu, malgré leurs appréhensions et leur manque de connaissances, ils se sont embarqués avec enthousiasme dans un voyage à la recherche du roi qu'ils avaient longtemps attendu. La hiérarchie juive, cependant, bien que possédant le Pentateuque, qu'ils étudiaient chaque jour, bien qu'en possession des prophéties qu'ils lisaient quotidiennement, gouvernés par un homme amer et méchant du nom d'Hérode, se sont contentés de se montrer totalement indifférents à ce qui se passait à 8 kilomètres de là. Et nous retrouvons encore ici l'attitude de condamnation constante de Matthieu envers les représentants officiels du judaïsme, et sa constante sensibilité au fait que Dieu ouvre l'Église, que Dieu ouvre l'Évangile aux païens. Écoutez, il y a toujours quelque part des cœurs affamés qui soupirent après un sauveur divin et sont désireux de suivre même un signe vague susceptible de les conduire à ses pieds. C'est magnifique de trouver de telles personnes. Il y a toujours des cœurs dans une telle quête. Je me souviens d'une occasion quand j'étais à bord d'un vol et devais étudier parce que j'avais un manuscrit à rendre à l'éditeur. J'ai donc murmuré de manière quelque peu facétieuse ou blagueuse. « Seigneur, ne laisse aucune personne non sauvée s'asseoir à côté de moi pour éviter que je ne sois obligé de témoigner pendant tout le trajet de Saint-Louis à Los Angeles, parce que je dois terminer mon travail. » Et nous avons dû faire une halte, à coup sûr, et nous avons embarqué dans le mauvais avion, ou alors l'avion ne fonctionnait pas, et nous avons dû changer d'appareil, et tout s'est mélangé, et nous avons emprunté le mauvais avion. Un gars est arrivé et s'est assis à côté de moi. J'ai donc étudié et étudié pendant qu'il dormait. Je ne voulais pas qu'il se réveillât. Je me suis poussé légèrement, et il s'est réveillé. J'ai pensé, « Oh mince !» Et ensuite, il m'a posé une question. Il a dit, « Vous êtes enseignant ? Vous avez tous ces papiers et tout ça. » J'ai dit, « Eh bien, je suis une sorte d'enseignant. Oui, je suppose que je suis enseignant. » Il a dit, « Qu'est-ce que vous enseignez ?» J'ai dit, « J'enseigne la Bible. » Il a répondu, « Vous enseignez la Bible ? Oh !» Il a dit, « Écoutez !» Il a dit, « C'est incroyable !» Il a dit, « Vous ne sauriez pas, par hasard, comment je pourrais m'y prendre pour avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ. C'est la vérité. » Et je me suis mis à marmonner. « Vous ne devriez pas commencer par là. Vous devriez vous montrer sceptique. Nous devrions passer au moins une heure de polémique, discussion, avant d'en arriver là. Quelque part, au-dessus du Grand Canyon, il a reçu Christ. Je l'ai baptisé plus tard, et il m'a dit par la suite qu'il se rendait à Los Angeles pour travailler pour quelqu'un. J'ai demandé qui, et il m'a dit... Et il s'agissait de l'un de nos anciens. C'était intéressant. Il y a toujours des cœurs préparés. Et en voici quelques-uns qui sont venus à Jérusalem. Nous voyons donc l'arrivée. Deuxièmement, et c'est vraiment intéressant, l'arrivée constitue la première scène, qui conduit rapidement à la deuxième scène, l'agitation. L'agitation. Hérode se trouve à l'exact opposé de ces gens. Verset 3. Le roi Hérode, ayant appris cela, ayant appris que ces gars étaient là et qu'ils demandaient ceci, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Pourtant Hérode savait pertinemment qu'il était assis sur une poudrière. Pour commencer, il savait que les gens de la ville ne l'aimaient pas, et qu'ils n'aimaient pas le pouvoir romain, et qu'ils voulaient leur indépendance et leur autonomie. Et il savait qu'ils cherchaient à le détrôner et à renverser Rome. Et il savait aussi que si les Perses s'en mêlaient et parvenaient à construire leur immense confédération qui engloberait cet individu qu'ils appelaient roi des Juifs, ils seraient vraiment dans le pétrin. Par ailleurs, son armée était temporairement hors du pays. Il savait que l'Empire oriental avait toujours constitué une menace pour Rome, et qu'un conflit était toujours en formation. Il savait que son boulot était en jeu, tout comme sa vie, et bien qu'il ait eu au moins 70 ans à cette époque, il voulait encore s'accrocher à tout ce qu'il pouvait avoir. Il était donc troublé. Il était paniqué. C'est un terme qui signifie être agité, remué, bouleversé, contrarié. En fait, j'ignore s'il existe un terme plus fort que celui-ci pour signifier cette pensée. Une bonne comparaison à ceci serait dans Matthieu 14 au verset 26, où le même terme est employé. Et il est dit ceci. « Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés. » Il s'agit du même mot. Je veux dire que c'était vraiment quelque chose d'anormal. C'était très, très troublant. Et ils étaient dans un état de panique. Hérode était donc agité, et il avait raison de l'être. Après tout, dans son esprit, c'était lui le roi des Juifs. Il s'était beaucoup battu pour garder et conserver cette position, mais voici que, tout à coup, quelqu'un s'amenait pour lui prendre son trône, et ce faiseur de monarque était là pour s'assurer qu'il le prenait effectivement. Ma foi, c'était sérieux. Et cette rumeur traînait à présent dans toute la ville. Il y a un nouveau roi. Il y a un nouveau roi des Juifs. Il y a un nouveau roi des Juifs. Vous avez entendu? Les Perses sont là. Les faiseurs de monarques sont là. Il y a un nouveau roi des Juifs. Hérode pouvait imaginer la mobilisation, l'agitation parmi les fanatiques et exaltés dans le pays, et il en était donc tremblant. Il se dit par conséquent, « Je dois prendre des mesures radicales. » Dans son esprit corrompu et dépravé, l'intrigue, la conspiration se met à germer, à fermenter. Bon, il a franchement exagéré, car d'après le récit de Matthieu, on n'a pas du tout l'impression que la population de Jérusalem ait été impressionnée par les questions des mages. On ne voit pas une foule se précipiter à Bethléem. Elle n'a pas l'air d'avoir compris. On n'a pas l'impression qu'il y ait une quelconque agitation. Il m'est si difficile de le concevoir. C'est choquant. Je veux dire, à la suite de ces célèbres faiseurs de monarques venus de la Perse, et qui posaient ce genre de questions, on se serait attendu à ce que le peuple se soulevât. Cela correspond tout simplement à ce qui allait se passer. La Bible dit « Il est venu chez les siens, et les siens quoi ? Ne l'ont point reçu. Il est venu dans le monde, et le monde ne l'a point connu. » Et c'est vrai. Quand toutes les circonstances normales auraient dû susciter un grand intérêt, il n'y en a eu aucun. Aucun. Aucune révolte du genre « Nous vaincrons » n'était en vue à Jérusalem. Il n'y avait aucun « Prenons un autre roi et renversons Hérode ». Je pense qu'il y a une raison à cela, et simplement la raison d'être de cet état de choses, c'est qu'ils redoutaient davantage Hérode, qu'ils ne faisaient confiance à Dieu. Ils avaient davantage peur d'Hérode, qu'ils n'avaient confiance en la parole de Dieu. Ils redoutaient vraiment ce qu'il était capable de faire. Regardez ce qui est dit. Il est dit qu'il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Pourquoi était-il troublé? Parce qu'ils le redoutaient énormément, et avaient beaucoup de crainte. Ils avaient appris à travers une longue et triste expérience qu'il n'y avait aucune limite à la colère et à la vengeance de ce maniaque. Et je veux dire qu'il était maniaque. Il se disait, « Eh, si ces gens contrarient Hérode, nous allons nous retrouver dans un bain de sang. » Il craignait cela. Permettez-moi de parler d'Hérode pendant une minute. Il a commis des atrocités qu'il est difficile de décrire. Mais laissez-moi d'abord parler des choses positives. C'était quelqu'un de très capable. Et en général, les personnes diaboliques qui parviennent à se hisser à ce niveau ont une certaine capacité. Il a remporté de formidables victoires contre la guérilla, lorsqu'il n'était encore qu'un jeune gouverneur en Galilée. Il y avait toujours ces guérillas de montagne. Je ne parle pas des gorilles, qui sont des animaux, mais plutôt de soldats. Il avait cependant l'habitude de vaincre ces petites bandes de guérillas en Galilée, et il a fait régner une véritable paix. Il était très efficace quand il s'agissait de collecter les impôts pour Rome, ce qui fait que Rome l'aimait. Il était compétent pour faire régner l'ordre et faisait un diplomate très subtil. L'histoire nous apprend qu'il était un leader déterminant au combat et était en mesure de renverser la tendance d'une bataille, de la défaite à la victoire. Il était le seul dirigeant de l'histoire palestinienne qui ait réussi à préserver la paix et à faire régner l'ordre. Pendant les moments difficiles, il arrivait même qu'il restitua les impôts aux gens pour leur éviter d'être dans le besoin. En 25 avant Jésus-Christ, il y a eu une terrible famine, et il a fait fondre les assiettes en or de son palais pour distribuer de l'argent aux pauvres. C'était donc quelqu'un de subtil et de malin, qui faisait le nécessaire pour s'entendre avec la population. Il était un grand bâtisseur. Il a construit un théâtre à Jérusalem. Il a bâti un amphithéâtre et un hippodrome. Vous savez ce que c'est qu'un hippodrome? C'est un terrain de course. Il s'est également construit un magnifique palais et a même amorcé en 19 avant Jésus-Christ la construction du temple, le grand temple hérodien, mais il est mort avant de l'avoir achevé. Et vous savez qu'il a été entièrement démoli en 70 après Jésus-Christ, lorsque Titus Vespasien et son armée romaine sont arrivés et qu'ils ont conquis Jérusalem. Il a restauré une partie de sa réputation dépravée. Il a construit la cité de Césarée, qui est une magnifique ville portuaire. Il a embelli des villes comme Beyrouth, Antioche, Damas, Tyre, Sidon et Rhodes, et a même fait des contributions pour les édifices d'Athènes. Il a érigé la forteresse de Massada, qui était une forteresse inexpugnable. Il avait un excellent programme de sécurité sociale, si bien que lorsque les gens avaient du mal à se procurer des vêtements, il en importait pour eux. Vous voyez donc qu'il a fait un certain nombre de choses pour s'attirer la sympathie des gens, parce qu'il était un habile politicien. Mais il était aussi cruel, diabolique et maniaque. Il l'était désespérément. Tous les historiens s'accordent là-dessus. C'est la première ligne de chacun des articles que j'ai lus au sujet d'Hérode. Ce gars était d'une incroyable jalousie, et il était désespérément suspicieux et méfiant de tout le monde. Il se sentait menacé par tout le monde et partout, ce qui fait qu'il a passé sa vie entière à planifier des meurtres. Il était constamment en train de planifier des assassinats. Il n'aimait pas les Asmoniens, qui étaient toute une famille. Alors il a prévu de tous les tuer. Il descendait des Maccabées. Et vous vous souvenez que les Maccabées étaient un groupe de personnes juives qui avaient combattu pour se libérer des Grecs. Lorsque les Romains sont arrivés, ils ont eu peur que les parents des Maccabées en fassent autant contre lui. Aussi a-t-il préféré les tuer tous pour qu'aucun d'entre eux n'ait le moindre espoir de le renverser. Il avait 10 femmes et 12 enfants. Sa femme la plus remarquable était une dame du nom de Marianne. Non pas que cela ait une quelconque importance. C'est juste pour vous permettre de faire une identification. Vous pourriez tomber dessus un jour en lisant des livres d'histoire. Marianne. Elle avait un frère. Le nom de son frère était Aristobule. Et Aristobule était souverain sacrificateur quand Hérode était au pouvoir. Et il avait tellement peur d'Aristobule qu'il a décidé de l'assassiner. Il s'agit du frère de sa femme. Ainsi, par une journée chaude, il a dit « Nous allons faire la fête à Jéricho ». Jéricho était comme Palm Springs. Vous descendez la colline, Jéricho était un endroit formidable, un magnifique complexe, de beaux palmiers, l'eau y était bonne et le soleil tiède. C'était un endroit fabuleux. Ainsi, par une journée chaude, il l'a invité à descendre nager au fleuve Jourdain, à proximité de Jéricho, et est finalement parvenu à convaincre le jeune homme de plonger dans l'eau. Et lorsqu'il l'a fait, il avait bien sûr d'autres hommes qui attendaient, et faisant semblant de jouer et de s'amuser, et ils ont sauté dans l'eau. Pendant qu'ils faisaient mine de jouer avec Aristobule, ils l'ont maintenu sous l'eau jusqu'à ce qu'il meure. Et personne n'a vraiment su ce qui s'était passé. Hérode a donc organisé des funérailles magnifiques. Il s'est rendu aux funérailles et y a passé tout son temps à pleurer. Il a même assassiné sa propre femme, Marianne. Il a également exécuté sa mère parce qu'il ne voulait pas qu'elle l'embêtât. Alexandrie. Il avait 2 fils qu'il n'aimait pas. Alors il les a battus tous les deux parce qu'il craignait qu'ils se missent à convoiter son trône. 5 jours avant sa mort, il a commandé l'exécution de son 3e fils. Il aspirait au pouvoir, était méfiant et était animé d'un désir farouche de vengeance qu'il a asservi tous les jours de sa vie. Cruel, sanguinaire, paniqué, tyran, on le connaissait comme un criminel. Le point culminant de cette caractéristique a dû être ceci. Il était sur le point de mourir. Je veux dire qu'il savait pertinemment qu'il était sur le point de mourir. Ce n'était plus qu'une question de jours. Il s'est donc retiré à Jéricho. Il a ordonné qu'il soit fait une collection des citoyens les plus distingués de Jérusalem. Prenez-les tous, arrêtez-les, fabriquez des charges contre eux et jetez-les tous en prison, tous les citoyens juifs les plus distingués de la ville. Et il a déclaré, « Au moment de ma mort, abattez-les tous. » Et on lui a dit, « Mais pour quelle raison ?» Et il a répondu, « Parce que personne ne se lamentera à ma mort et que je tiens à ce que la ville soit en deuil à ma mort. » Ces mages sont entrés dans la ville, sur leur monture, en disant, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Et la Bible dit, « Il était agité. » Il était agité. C'est ce qui, plus que toute autre chose, l'a dérangé. Une menace pour son pouvoir, vous voyez. Et il était vraiment secoué. C'est tellement intéressant le contraste entre la paix qui règne dans les cœurs des mages et la panique qui habite celui d'Hérode. Peut-être est-ce parce qu'il y avait des sages et des imbéciles. Et Hérode était un imbécile. Le docteur Gaeublin dit, « La grande ville et ses magnifiques institutions religieuses, son merveilleux temple hérodien, qui était alors en construction, son sacerdoce aristocratique et ses institutions bénévoles, n'avaient aucune connaissance du roi. Non, ils n'avaient aucun désir de voir arriver le roi. Ils étaient satisfaits d'eux-mêmes. Ceci annonce toute l'histoire du rejet du roi, le Seigneur venu des cieux. Et le fait qu'il n'y avait pas une seule chambre pour lui à l'auberge, mais aussi qu'il n'y avait pas non plus de place pour lui parmi les siens. Ils ne l'ont point reçu. Hérode, le roi, était troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il craignait pour son trône, qui n'était pas vraiment à lui, et Jérusalem savait ce que signifiait la peur de Hérode. Cela signifiait la révolte, le carnage et la souffrance. Il avait raison. Ce qu'il dit, c'est que tout le monde était troublé. parce qu'il savait quel genre d'homme était Hérode, et redoutait ce qui allait se passer. Et permettez-moi de vous dire qu'ils avaient eu raison d'avoir peur, parce qu'il s'est à peine écoulé quelques jours que Hérode a envoyé ses soldats abattre tous les enfants du territoire qui avaient moins de 2 ans, pour compléter sa collection de crimes et s'assurer ainsi de massacrer ce potentiel roi. C'est pour cette raison que Jérusalem était secouée. Ma foi, c'est enthousiasmant, n'est-ce pas? Prions. Notre Père, nous sommes enchantés de voir la parole de Dieu s'ouvrir à notre compréhension. Et notre joie vient de ce que nous désirons si profondément comprendre ta parole. Il y a un certain sentiment d'exaltation qui vient avec cette compréhension. Nous confessons cependant, Père, qu'il n'y a absolument aucune exaltation. Il n'y a absolument aucune joie quand nous réalisons ce que tout ceci signifiait. Nous regardons en arrière vers un homme comme Hérode, qui brûle à présent dans un enfer éternel. Nous regardons en arrière aux souverains sacrificateurs et aux scribes, les anciens de ce peuple, qui sont maintenant perdus à jamais, et reconnaissons que lorsque le roi est venu, ils n'ont pas voulu de lui. Ils ne le connaissaient pas. Ils ne se sont pas dérangés à le chercher. Et même lorsque, 30 ans après, il est arrivé dans leur ville et qu'il a annoncé qui il était, ils n'ont pas voulu de lui. Père, nous savons que cela a très peu changé aujourd'hui. Oh, beaucoup de gens revendiquent être chrétiens, mais je suis certain qu'ils ne le sont pas tous. Et je suis sûr qu'il y en a qui rejettent Christ de manière aussi publique et flagrante qu'on l'a fait jadis. Il n'y a pas de joie en un type comme Hérode. Père, je ne cesse de penser à ce qu'il aurait pu être. Si seulement il avait su qu'au lieu de régner un petit moment sur terre, il pouvait régner éternellement avec toi. Si seulement il avait su qu'au lieu d'essayer constamment de se venger lui-même, il pouvait te faire confiance, et tu l'aurais vengé si qui que ce soit l'avait offensé. Dans sa quête de paix, si seulement il avait su que tu es le prince de la paix, nous ne pouvons qu'imaginer le tourment d'une telle âme en enfer, avec tout ce qu'elle doit avoir à se rappeler de massacres et de crimes. Il n'y a donc aucune joie en cela. Ainsi, Père, nos émotions sont mitigées ce soir. Nous sommes certes reconnaissants d'avoir une meilleure compréhension de ta parole, mais en même temps, cependant, attristés en réalisant ce que cela dit réellement. Et pourtant, Père, nous ne pouvons pas nous empêcher de ressentir une grande affinité avec certains hommes, avec lesquels nous passerons certainement l'éternité, et que la Bible appelle les mages. Un reste venu de loin qui a cru, et qui est devenu ton peuple. Merci pour eux, Père. Aide-nous à nous concentrer sur le fait que l'humanité tout entière est divisée en 2 catégories, ceux qui rejettent et ceux qui croient. Aide-nous à prendre conscience que c'est cette division qui constitue le facteur déterminant de la destinée. Je prie seulement ce soir, Seigneur, que personne ne parte de ce lieu sans être un croyant. Que personne ne parte d'ici pour rejoindre Hérode ou les scribes indifférents, et les pharisiens, et les souverains sacrificateurs, et les anciens, mais que plutôt nous nous rangions tous du côté des mages enthousiastes, excités, énergiques, ravis, bénis et adorateurs, tombant à genoux aux pieds de celui qui a vécu pour mourir, pour ressusciter, afin que nous vivions pour toujours, notre Seigneur Jésus-Christ, au nom duquel nous prions. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.